Chapitre 18. Une abomination. Le lendemain matin, Florent, qui avait passé la nuit comme il aimait à le faire, c'est-à-dire dans un fauteuil au chevet de Daniel, et qui ne s'était endormi que très tard, fut éveillé en sursaut par Madame Maugas. « Comment, Florent, tu n'es pas rentré chez toi hier soir ? » fit-elle en simulant un profond étonnement. « Je t'en prie, ne joue pas la comédie. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Tu sais très bien que je n'ai pas pu m'en aller puisque tu as fermé la porte à clé. Mais tu en as été pour tes frais. J'ai passé la nuit dans ce fauteuil et j'ai très bien dormi. » Le bruit de cette conversation ne tarda pas à éveiller Daniel. C'était peut-être au moment où elle reprenait conscience que cette jeune fille était la plus belle. En même temps que ses paupières se levaient, une expression de ravissement venait éclairer son visage, semblable à celle d'un enfant devant les yeux duquel on passe et repasse d'objets brillants. « Bonjour, madame, » dit-elle avec beaucoup de gentillesse. Elle ne se rappelait pas encore ce qui s'était produit la veille, et pourtant elle ne s'étonnait pas de la présence de Florent. Mais brusquement, elle se souvint de tout. Un voile, semblable à celui que fait un nuage masquant le soleil un instant, couvrit son visage. Elle était à cet âge où on ne sait encore cacher ses sentiments. La froissait-on qu'elle devenait sombre brusquement, à la grande surprise de ceux qui venaient de la voir souriante. « Laissez-moi, madame » dit-elle en détournant les yeux et en les posant avec une fixité inquiétante sur ce vase dont la cassure était tournée vers le mur, mais qu'elle avait néanmoins trouvé fort beau. « Je ne comprends vraiment pas ce que vous avez tous les deux, » s'écria Madame Maugas. « J'ai peut-être fermé cette porte à clé hier soir, sans y penser, machinalement, comme cela m'arrive quelquefois. Mais il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Tu n'avais qu'à frapper, Florent, si cela t'était si désagréable. » « J'ai frappé, mais je ne voulais pas réveiller toute la maison. Voulez-vous que je vous dise à tous les deux ce que je pense ? L'amour vous a détraqué le cerveau. » Sur ces mots, Madame Maugas quitta la pièce en claquant la porte avec tant de force que la fameuse clé, celle qui avait provoqué ce petit drame, tomba à terre avec un bruit bien anodin. Laissons ces deux jeunes gens à cette amertume qu'éprouvent ceux à qui la bonté n'attire que des ennuis et suivons Madame Maugas. Elle claqua également la porte de sa chambre, puis celle de la salle de bain. Elle était tout simplement hors d'elle. Fallait-il que son fils fût benêt pour n'avoir pas profité de sa séquestration? Madame Maugas ne pouvait pas cependant faire plus. Non, il n'y avait rien à attendre de ces deux amoureux. Ils allaient roucouler jusqu'à épuisement complet. « À ce moment, ils ne pourront plus se voir en peinture, » murmura Madame Maugas, contente de cette expression qui lui semblait convenir on ne peut mieux à un peintre. « Et la fortune nous passera devant le nez. » Elle jeta son kimono d'un geste désordonné, s'habilla à la hâte, se rendit dans sa chambre, prit ses bijoux, les disposa sur elle-même. Puis elle sortit. Elle monta la rue Raynois, la rue Franklin, où, malgré sa colère, elle jeta un regard respectueux sur la maison qu'habita Clémenceau, traversa la place du Trocadéro. « Tiens, » pensa-t-elle, en remarquant devant le Théâtre National, des affiches de la Valkyrie. « Il faudra que j'y aille. » Elle descendit l'avenue du président Wilson. Devant l'immeuble des Marrondiers, elle s'arrêta, reprit sa respiration. « Je voudrais parler à monsieur ou à madame Marrondier, » dit-elle au domestique qui vint lui ouvrir, « de la part de madame Maugas. » Elle fut introduite au salon. Sa visite devait être un événement, car pendant qu'elle attendait, le domestique revint toutes les minutes la prier de patienter. Elle percevait des va-et-vient, des conversations étouffées. Le téléphone retentit dans une pièce voisine. « Je n'ai pas le temps de répondre !» entendit-elle crier par une voix masculine. Peu après, M. Marrondier pénétrait dans le salon. « Je m'excuse de me présenter chez vous à une heure aussi matinale, » fit tout de suite Mme Maugas, « mais j'ai à vous entretenir de choses très importantes. » « Vous êtes bien, madame, la mère de Florent Maugas ?»« Oui, monsieur. » « Je vous en prie, asseyez-vous, madame. Ma femme va nous rejoindre dans un instant. » Elle sera très heureuse de vous connaître. Vous devinez, monsieur, le sujet qui m'amène. M. Marondy était si ému qu'il remuait les lèvres sans cesse, si bien qu'il semblait à chaque instant devoir prendre la parole.
« Je sais où est votre fille. »«
Où est-elle? Où est-elle, madame ?»«
Calmez-vous, monsieur, j'ai beaucoup de choses à vous dire. »
« Je ne sais comment vous remercier, madame, d'être venue me voir. »«
Il faut que vous soyez très indulgent pour mon fils, » commença madame Maugas en tirant de son sac le face à main qu'elle avait emporté et dont elle se resservait pour la première fois depuis 4 ans. « Il n'a pas été heureux. Son père est mort alors que je le portais encore dans mon sein. Je ne pense jamais à cette période de ma vie sans que des larmes me viennent aux yeux. »
Elle prit son mouchoir et essuya le tour de ses yeux avec soin. M. Marondier, dans son énervement, n'avait pu rester assis. Il s'était levé et arpentait de long en large le salon. Par politesse, chaque fois qu'il passait à côté de Mme Maugas, il s'arrêtait une seconde. Elle remit son mouchoir dans son sac, ouvrit et ferma les yeux à plusieurs reprises, comme pour s'assurer que tout était bien, et continua.
« Il m'a fallu alors lutter !» Et une femme seule.
Ma fille, vous venez de me dire que vous saviez où elle était. Dites-le-moi, je vous en supplie.
Vous le saurez dans un instant. Consolez-vous en attendant, en pensant qu'elle est en sûreté. Je disais donc qu'une femme seule est une pauvre chose en ce bas monde, surtout quand elle a été élevée dans le luxe et qu'elle a eu l'habitude de ne jamais manquer de rien. Mon pauvre mari, un utopiste, n'avait pas prévu qu'il disparaîtrait un jour. Il me laissa en présence d'une situation inextricable. Malgré tous ses malheurs, je suis parvenue à faire de mon fils un homme. Je ne me doutais pas qu'un jour il me remercierait comme il vient de le faire. Je ne me doutais pas qu'un jour je serais obligée de faire une démarche aussi pénible.
Je ne vois pas, du moins pour le moment, ce que votre démarche a de pénible.
« Comment, vous ne trouvez pas pénible pour une mère d'être obligée de demander de l'indulgence pour l'enfant qu'elle chérit le plus au monde ? Comme vous, je sais qu'il a mal agi. On ne détourne pas une jeune fille, on ne profite pas de sa naïveté, on n'essaie pas ensuite d'abuser d'elle, de compromettre celle qu'on prétend aimer. »«
Il a fait cela ?» s'écria M. Marondier, que ces derniers mots avaient accablé.
« Non, pas encore, mais j'ai bien peur qu'il ne parvienne à ses fins avant peu. »«
Je vous en supplie, madame, dites-moi où est ma fille. »«
Dites-le-nous, madame, » surenchérit madame Marondier qui venait de pénétrer dans le salon.
« Je ne demande pas mieux de vous le dire, mais... »«
Mais quoi? Expliquez-vous. Vous nous voyez devant vous, bouleversée, tremblant de peur, et vous êtes pleine de réticence. »
Je suis une pauvre femme, doublement meurtrie, et par la vie, et par ce que vient de faire mon fils. S'il apprend que je l'ai trahi, il me tuera. Je voudrais pouvoir le fuir, changer d'appartement, mais comment le ferais-je? Avec quoi?
Si vous avez besoin d'un peu d'argent, madame, je n'ose vous proposer de vous en donner.
Dans l'état où je suis, je ne sais plus, je ne sais plus. De l'argent, évidemment, il m'en faudrait. 100, 150 000, je ne sais pas, je n'ai plus ma tête à moi. Pourtant, si j'ai besoin de ma tête, c'est bien en ce moment. »
M. Marondier fit à sa femme un signe d'intelligence. 150 000 francs, c'était une somme. C'était à 3 ou 4 000 francs qu'il avait songé quand, un instant auparavant, il avait offert une aide à Mme Maugas. Il avait même porté la main à son portefeuille pour que cette dernière comprît qu'il ne pouvait être question que d'une somme qu'on transporte sur soi.
« Vous me demandez 150 000 francs ? » fit-il en changeant de ton, comme s'il s'agissait d'une affaire à présent.
« Cela ne me paraît pas exagéré, » répondit Mme Maugas, qui venait de comprendre qu'il était inutile de jouer plus longtemps la comédie.
« C'est quand même une somme importante, » observa Mme Marondier en jetant sur son mari un long regard plein de signification. « Madame se contenterait peut-être de 100 000. »«
Non, c'est impossible. 150, c'est même peu. »«
Eh bien, donne-les-lui, » continua Mme Marondier en s'adressant à son mari. Ce dernier hésita pourtant encore un instant. Il lui coûtait de perdre ainsi une pareille somme. Mais cela ne valait-il pas mieux que de perdre sa fille unique ?
J'accepte, madame. » Madame Mauga se garda bien de manifester la moindre joie. Son visage demeura aussi grave. Elle semblait dire que ce n'était pas par intérêt qu'elle avait agi ainsi, mais par devoir de mère.